À cette fin de vacances, je vais vous parler du grand schisme qui a duré de 1378 à 1415, soit pendant 37 ans. Vers la fin de sa vie, Urbain V quitta Avignon pour Rome sous la pression de Sainte Catherine de Sienne. Le voyage dura un mois dans une atmosphère de plus en plus hostile. Pourtant, vers la fin de son règne, Urbain V eut un grand moment d'espérance avec la rencontre de Charles IV, empereur d'Occident, avec Jean Paléologue, empereur de ce qui restait de l'Empire byzantin, lequel promit de faire cesser le schisme grec en échange d'une aide militaire. Malheureusement, Jean Paléologue était très endetté envers les Vénitiens qui l'emprisonnèrent. Des révoltes éclatèrent en Italie, toujours divisée en maintes principautés. Pérouse se révolta contre le pape qui se vit contraint d'avoir recours à des milices qu'il n'appréciait guère. Finalement, il n'avait rien pu faire pour l'empereur titulaire de Constantinople. Très attristé par tant d'épreuves, Urbain V prévoyait ce que serait un conclave s'il mourait en Italie. Donc, il quitta Rome en 1370 et mourut en Avignon le 19 décembre. Son successeur Grégoire XI régna 8 ans, de 1370 à 1378. D'un esprit paisible, il avait des qualités de diplomate et connut du succès dans les différences franco-anglaises et les affaires germaniques et impériales. Il procéda aussi à quelques réformes ecclésiastiques. Il resta en Avignon pendant que l'Italie connaissait une anarchie sanglante avec des luttes entre Naples, Florence, le Milanais et Rome, attisées par les interventions hongroises et angevines. Toujours sous l'influence de Catherine de Sienne qui alla le chercher, il revint à Rome en janvier 1377 pour y mourir un an après, encerclé par un peuple clamant sa volonté d'avoir un pape non français. Après les 9 jours consacrés aux funérailles, les cardinaux se réunirent au Vatican, bien que le pape leur ait permis de le faire où il voudrait. Au début du conclave, la foudre tomba sur le Vatican, ce qui fut considéré comme de mauvais augure. L'assemblée devint vite houleuse, partagée en de multiples factions. Il y en avait même deux dans la délégation française, puisqu'il y avait un parti limousin. Pendant ce temps, le peuple assiégeait le conclave. Il n'y avait que 3 candidats romains, un vieillard malade, un second qui n'était guère apprécié, et un troisième qui manquait d'honnêteté. On pensa alors à un quatrième, archevêque de Bari, qui vivait depuis longtemps dans Avignon. Il fut considéré comme élu. La foule voulait un pape romain. Elle fit irruption dans le conclave. Ne pouvant la contenir ni la raisonner, les cardinaux mirent la tiare sur la tête du vieux cardinal. Le peuple se précipita sur lui et le couvrit si bien de baisers qu'il en mourut, étouffé. Profitant du désordre, les cardinaux s'enfuirent. C'est invraisemblable, mais c'est historique. L'archiprêtre de Bari fut considéré comme élu et intronisé selon les règles. Il prit le nom d'Urbain VI. Pendant 5 mois, la situation fut calme. Mais le nouveau pontife devenait autoritaire, donnant aux cardinaux des ordres sur la gestion de leurs finances. À nouveau en révolte, les cardinaux se réunirent à Agnani. Malgré l'avis de Sainte Catherine de Sienne, le pape ne céda rien. Les cardinaux publièrent un factum déclarant qu'Urbain VI avait été élu sous la pression de la foule, mais que, redevenu libre, il nommait le pape Robert de Genève, âgé de 36 ans, qui prit le nom de Clément VII. En face du pape installé à Rome, il y avait donc un autre pape élu par un conclave régulier. L'unité de l'Église était détruite. Il y avait un schisme profond. Des deux côtés, on se croyait dans la vérité. Des deux côtés, il y eut des saints reconnus par l'Église. Sainte Catherine de Sienne et Saint Bernard de Sienne d'un côté, Saint Vincent Ferrier et Saint Pierre de Luxembourg de l'autre. L'Angleterre et l'Allemagne reconnurent Urbain VI, pendant que l'Espagne et la France étaient fidèles à Clément VII, qui se réfugia à Naples, puis, devant l'anarchie qui y régnait, retourna s'installer en Avignon. Pendant ce temps, l'anarchie persistait en Italie. Dans les États pontificaux, les deux camps s'affrontaient. Florence se révoltait, Gênes et Venise se faisaient la guerre sur un fond de rivalité commerciale, la reine de Naples avait rejoint Clément VII. Le pape de Rome appela contre elle son parent Charles de Duras, qui s'empara de son château et la fit étouffer entre deux matelas avant de mettre Urbain VI en prison. Il voulait être le seul roi. Le pape réussit à s'enfuir, mais mourut peu après, en 1389. Clément VII restait le seul pape, mais pour peu de temps, car un autre pape fut élu à Rome, Boniface IX. Le schisme menaçait de durer. Pour tenter de mettre fin à cet état de choses, l'Université de Paris proposa plusieurs solutions, dont une cession réciproque, en quelque sorte une démission simultanée. Solution rejetée par les intéressés, chacun étant soutenu par des princes. Clément VII refusait avec énergie, car il voyait dans une telle démission une condamnation et ne voulait pas être considéré comme un pape douteux. Il repoussait aussi l'idée d'un concile. Miné par toutes ces contrariétés, il mourut en 1394. On invoquait le Christ qui a dit que tout soit un comme toi, le Père, tu es en moi et moi en toi, mais l'ennemi veillait, aidé par l'orgueil de l'homme. Le schisme troublait toute la chrétienté, les synodes se succédaient en France, en Angleterre et en Allemagne. L'Université de Paris proposa soit un compromis entre les papes, soit la cession réciproque, ou soit la convocation d'un concile. À la mort de Clément VII, beaucoup pensèrent que, puisque le pape d'Avignon était mort, il n'y avait plus qu'à laisser seul celui de Rome. Charles VI, roi de France, écrivait dans ce sens aux cardinaux d'Avignon, mais ces cardinaux ne voulurent rien entendre. Réunis en conclave, ils décidaient pour le bien de l'Église d'élire un pape qui s'engagerait à céder sa dignité dès que le bien de l'Église le demanderait. Seul un osa dire « Je ne me sens pas assez de vertu pour abdiquer si j'étais nommé, je préfère ne pas me soumettre à cette tentation. » C'était le seul sage. Il y avait dans le conclave un petit vieillard qui avait 65 ans, espagnol d'Aragon nommé Pietro da Luna. C'était un canoniste distingué, expert en matière de négociation, alerte, entêté, qui avait joué un rôle important dans l'élection de Urbain VII. Dans le concile qui débutait, on pensa élire un chartreux, mais Pietro da Luna fit remarquer que les chartreux n'ont guère de sens pratique, et ce fut lui qui fut élu. Il prit le nom de Benoît XIII. Il était très habile, rien ne résistait à son éloquence, il savait, pourrait-on dire, embobiner ses auditeurs. À peine fut-il élu que l'Université de Paris lui envoya quelques ambassadeurs pour lui appeler sa promesse d'abdiquer. Mais Benoît XIII temporisait, du coup certains universitaires envisageaient de soustraire la France à l'obédience d'Avignon. Peu à peu, les autorités du royaume de France retiraient à Benoît XIII toutes ses charges, la nomination des évêques, le bénéfice des collectes, etc. Bientôt, il ne resta sous l'autorité de Benoît XIII que l'Espagne. Charles VI tenta de contraindre le pape en faisant le siège d'Avignon, mais entre-temps, les évêques s'aperçurent que la domination du roi devenait toujours plus lourde et que l'on avait changé un maître doux en un maître impitoyable. On demanda donc à Charles VI de rendre leur obédience à Benoît XIII, ce qui fut fait en 1403. Pendant ce temps, à Rome, Boniface IV, prince assez faible, sombrait dans un népotisme jugé scandaleux par des notables. Il mourut en 1404 à la suite d'une scène violente. Benoît XIII restait seul pape. Malgré les efforts en particulier de la France, un successeur à Boniface fut élu, Grégoire XII, âgé de 72 ans, une grande apparence de sainteté. Les deux papes semblaient dans les meilleures conditions pour négocier un arrangement, mais ils ne réussirent pas à s'entendre sur le lieu de la rencontre. Benoît XIII voulait Marseille, puis Savone, Grégoire XII voulait Luc ou Sienne. Les tergiversations durèrent 10 mois. Les cardinaux qui soutenaient Grégoire XII finirent par se lasser. Ils allèrent à Pise en y invitant des cardinaux qui soutenaient Benoît XIII afin d'élire un nouveau pape. Pendant le même temps, Grégoire XII convoquait un concile en Vénétie et Benoît XIII à Perpignan. Cela faisait 3 conciles. Le concile de Pise commença par tenter de justifier son existence face à la situation périlleuse de l'Église. Mais il lui restait difficile de fonder sa supériorité sans l'approbation des papes. Il décida néanmoins de les déposer, d'élire Pierre de Candie qui prit le nom d'Alexandre V. C'était un vieillard sans grande énergie, mais généreux et désintéressé, qui avait débuté évêque riche, continué cardinal pauvre, avant de mourir pape dans la misère. Il y avait donc 3 papes. En 1409, Alexandre V proclama la déchéance des 2 autres papes. Benoît XIII s'exila à Perpignan, puis en 1415 à l'Espagne, à Peniscola. Grégoire XII gardait la fidélité du roi des Romains et de l'Italie, de Naples et de l'Allemagne. Alexandre V avait la France, l'Angleterre et l'Université de Paris. Il mourut 10 mois après son élection. Son successeur prit le nom de Jean XXIII, qui, selon l'abbé Huvelin, déshonora la papauté par son orgueil et ses habitudes militaires. On disait qu'il avait été pirate pendant sa jeunesse. Même sa vie privée a été discutée. Il n'a pas été gardé dans la liste officielle des papes, puisque environ 600 ans plus tard, le successeur de Pie XII prit aussi le nom de Jean XXIII. Cette période bien triste pour l'Église ne fut pas exempte de saintes âmes. Il en eut dans tous les camps. Outre Sainte Catherine de Sienne et Saint Vincent Ferrier, on peut citer Sainte Colette de Corbie, qui a réformé l'ordre des Clarisses et encouragé la dévotion au Sacré-Cœur, ainsi que le franciscain Saint Bernardin, un grand prédicateur. La situation restait toujours aussi grave. Le chancelier Gerson joua un rôle certain dans un concile que Jean XXIII voulait convoquer à Rome, mais comme Sigismond, l'empereur d'Allemagne et le roi de Hongrie s'y opposaient, il eut à Constance. Il a duré de la Toussaint 1414 au mois de mai 1418. Outre la fin du grand schisme, on lui doit la condamnation de Jean Hus. Diverses consignes furent édictées, en particulier sous l'influence de l'Université de Paris. Éclairer les points délicats sous l'assistance du Saint-Esprit, déclarer solennellement la condamnation de l'hérésie de Jean Hus, marquer l'unité de l'évêque et du pontife. Il est toutefois important de remarquer que ce schisme n'eut pour origine aucune question dogmatique. Aucun des papes n'y ayant participé n'a été condamné pour hérésie. La cause principale est la lutte de certaines factions pour le pouvoir, avec ses conséquences financières liées à la puissance politique. C'est certes navrant, mais en définitive, les traces furent plus faciles à effacer que les disputes théologiques précédentes, notamment celles des Grecs et celles qui subsisteront encore, et celles qui subsistent, et celles à venir de Luther. À son début, le Concile de Constance se composait de 18 000 personnes, cardinaux, évêques, abbés ou simples prêtres. Certains évêques avaient des suites nombreuses, l'archevêque de Mayence comptait 500 ecclésiastiques. On commença par tenter de fixer le mode de vote. En principe, seuls les évêques pouvaient voter, mais il y en avait plus de 800. Pour éviter les manœuvres souterraines, les évêques furent répartis entre nations, italiens, français, allemands, anglais et espagnols, mais sans tenir compte de l'importance de chaque groupe. Les anglais au nombre de 3 comptaient autant que les 200 français. Jean XXIII, de plus en plus discuté, cherchait à s'écarter. Il profita d'une fête pour traverser le Rhin, prétextant que l'air de Chafouze était meilleur que celui de Constance. En colère, le concile prononça une déclaration selon laquelle tout homme qui refuserait de croire au concile subirait la peine qu'il aurait méritée. Toutefois, le concile s'abstint de proposer des articles de foi. En 1417, le concile nomma comme pape Othon Colonna qui prit le nom de Martin V. Le nouveau pape approuva les doctrines du concile ayant trait à la foi, faisant des réserves sur celles qui avaient un caractère gallican. Par un acte d'accusation en 72 articles, on procéda à la déposition de Jean XXIII. Grégoire XII abdiqua de lui-même, mais rien ne put vaincre la ténacité de Benoît XIII retiré à Peniscola, qui mourut en disant « Ego sum papa ». Avant de mourir à 92 ans, il fit nommer un successeur Clément VIII, qui déposa son ombre de papauté au pied du vrai pape. Mai 1418, le grand schisme était terminé, il avait duré 37 ans.